Vaidaber Elohim el Moshe, vayomer elav aniash. Va'era el Avram, el Yitzhak, vel Yaakov, be el Shaddai, ou shemi Hashem lo nodati laem. Donc c'est au début de Va'era, les premiers versets de la parasha de Va'era.
Les premiers.
Voilà, on y est. Vaidaber Elohim el Moshe, vayomer elav ani Hashem. Dieu dit à Moshe, il lui a dit, je suis l'Éternel. Va'era el Avram, el Yitzhak, vel Yaakov, be kel Shaddai. Je me suis révélé à Abraham, Yitzhak et Jacob selon le nom El Shaddai. Et mon nom Hachem, Lo Nodati Lahem, mon nom Hachem, je ne l'ai pas fait connaître à eux. C'est-à-dire, les commentateurs expliquent que, certes, Hachem a parlé à Abraham, Yitzhak et Jacob en disant Yudke Vavke. Mais la connaissance, ça veut dire l'expérience de Dieu, Yudke Vavke, en cela qu'il exprime sa volonté libre dans l'histoire humaine, ils n'en ont pas eu l'expérience. Ils en avaient la confiance. Il y a une différence entre la confiance et l'expérience. Voilà. Et par contre, je me suis révélé à eux par le nom El Shaddai. Alors, on était dans ce passage qu'on avait déjà fait plusieurs fois, mais ce passage difficile, on passe page Koufiotret.
Moi, je m'adresse qu'à Béchem Hachem. Mais on était là-dedans. Donc, deuxième colonne de couche. Non. Non, pardon, première colonne. Moi, je suis Omer Vaera.
Je vais pas être aussi proche de ton
personne.
C'est vrai? Oui, je tiens pas quand même.
Mine de rien. On a recommencé un peu, mais
on est bien. Seul ou
avec ma femme?
Okay.
Ouais.
En
couple. Ça a été?
Ouais, ça va.
Attends, c'est enregistré là.
J'arrête de ma mère.
Mashama, Vaira, El Avram, Yitzhak, Vel Yaakov, et Kelchak. Mashma. Dafka Beshemazé, vous y êtes, les amis, oui. C'est bon? Beprat Nigle la haine. C'est-à-dire que la spécificité de la révélation que Dieu a eue par rapport au patriarche, c'est le nom El Shaddai. Velama Dafka Beshemazé, pourquoi strictement avec ce nom? Le fils, Sheshemazé, Moré, Hacheu, Noten, Lolam, Dai. Ce nom exprime. Qui donne à son monde ça suffit. Mashpia mito ametsiut beashlama shelo yechaser. Et prodigue de lui l'existence dans une perfection où il n'y a pas de déficience. Dai, c'est-à-dire c'est la shlemut. Kol tosefet gamken chaser. Un surplus est aussi une déficience. Le car ashfato dai. C'est pour ça la ashpa'a, ce que Dieu prodigue, est suffit, c'est-à-dire une dimension de complétude. Ça, c'est Shaddai. Ze Hashem ayud bekimbo avot. C'est selon ce nom qu'étaient attachés les patriarches. Le fils, Sheshpia Mehem Aolam, Venatan Lahem Zera Umashlema, parce que Dieu a, Ishpia Mehem, a, comment dire, Ishpia,
Mashpia. Une influence.
Mashpia. Prodigué. Oui, a prodigué. Voilà. Parce que Dieu a prodigué à partir d'eux tout le monde, et leur a donné une descendance d'une nation parfaite. Le Ficar, Ze Hashem, Sheu Shaddai, Aya Noeg, Imavot. Ce nom était la réalité vécue avec les patriarches. Vezeu Shama, Anikel Shakai, Peré Orbe. C'est ce que Dieu dit, Anikel Shakai, fructifie, multiplie. Kel Shakai, Nire Elai, Belouz, Vaivare Roti. Quel chakaï s'est révélé à moi, à Luz, et m'a béni. Quel chakaï yevarer otra vivrecha vierbecha. Que le Dieu chakaï te bénisse, te fructifie, te multiplie.
J'ai l'impression que chaque citation, c'est un des avots, c'est ça, hein, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov.
Non. En vérité, le premier, c'est Avraham, et les deux autres, c'est Jacob. Sur Yitzhak.
Oui. Luz, c'est Yaakov.
Alors, que dire ?
C'est sûr que dans Hartmann, il doit noter cette anomalie. Alors.
Donc, c'est la dimension de perfection de Shlemout.
Quand on dit Shlemout, c'est-à-dire que les Avot, avec le peu qu'ils avaient, puisqu'ils n'ont pas vu la réalisation des promesses, vivaient quand même une Shlemout ? C'est comme ça qu'il faut comprendre ?
Oui. Regarde, on va essayer de continuer. Je pense que dans la suite, ça va s'éclaircir. Dans Bereshit Rabba, Ani Kel Shakai, Shamarti Le Olami Dai. J'ai dit à mon monde, ça suffit. La Shamaï Dai, la Retz Dai, c'était aux cieux, ça suffit. À la terre, ça suffit. Chez le malé, chamarti laim dai, ayu nimtachim veolchim. Car si ce n'était que j'avais dit ça suffit, les cieux et la terre auraient continué à s'étendre de plus en plus d'une manière infinie. Il y aurait eu une dimension d'infini. Tané, Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov. On enseigne au nom de Rabbi Elazar ben Yaakov, Ani ou Shenaola Mumlo Kedai Lelakuti. Je suis que dans mon monde et tout ce qu'il contient suffisant pour ma divinité. Bio Inyanze, explication. Qu'il est dat Tana Kama, d'après le premier avis, Shem Shakai, Shedai Belakuto. Le monde suffit dans sa divinité. Et Kolel Kon Anim Tsaim Shem Tartav, c'est-à-dire ce nom inclut tous les êtres existants qui sont sous lui. Parce que tous les êtres existants sont sous lui, les inclus, il dit à son monde, ça suffit. Parce que si les cieux et la terre continuaient à être en expansion, il n'y aurait pas eu une chose qui les englobe. Share em beligvul. Car ils auraient été sans limite. Aval Hashem itbarach kolel animsaim kulam. Mais l'Éternel englobe tous les existants. Omipneze ikare shaddai. Shaddai belakuto, ce que le monde suffit dans sa divinité. C'est pour ça il a dit le olamodai. Alors, essayons de méditer sur qu'est-ce que ça veut dire. Peut-être, vous savez, il y a un débat en physique, est-ce que le monde est limité ou illimité ? Est-ce qu'en expansion
ou Big Bang.
Ou il n'est pas en expansion ? Il paraît que c'est des débats.
Mais c'est pas un débat ? Je crois que c'était tranché, que c'était un Big Bang, non ?
Oui, c'est une expansion.
Pour moi, c'était un monde.
Moi, il y a le... l'univers observable, qui est notre limite à nous, mais on, d'après les calculs, les modélisations, on arrive à l'idée d'une expansion possible.
Ah bon, c'est pas ce que ça fait. On ne sait pas si ça s'expand dans. Enfin, ça s'expand et si c'est infini, c'est quand même assez étrange à comprendre.
Ah oui, alors là, nos maîtres disent que le monde dilate, n'est pas en expansion. Là, n'est ça, pas c'est... en dilatation. N'est pas en dilatation. Parce que s'il eût été. S'il eût été en dilatation, il y aurait une dimension d'infini dans le monde. Et le monde, finalement, échapperait à son créateur. Donc là, j'ai l'impression qu'on dit que le monde, Shama, l'Olamo Dai, que la dimension de perfection, c'est-à-dire que le monde est. Comment dire, le monde quelque part est inclus dans Dieu. Dieu inclut toute réalité. Donc il y a une dimension quelque part, hein, il y a une dimension quelque part d'une finitude dans le monde. Si on dit une finitude, c'est-à-dire une perfection. Vous savez, par exemple, on dit que Shabbat va yichulu Hashamayim va'aretz, que s'il n'y avait pas eu le monde n'aurait pas été parfait. Le fait de s'arrêter montre qu'il y a une perfection. Par exemple, un artiste, un écrivain ou je ne sais pas quoi, quelqu'un qui fait quelque chose. Il écrit, moi je vous parle d'une expérience. Il écrit, voilà. La chose se développe. À un moment, tu dis die, ça suffit. Donc, ça veut dire, quand tu dis die, la chose, à ce moment-là, elle tient debout. Tant que tu n'as pas dit die, c'est en expansion. Quand tu dis ça suffit, ça veut dire que ça tient debout. Ça veut dire ça. Décider, le fait de décider, que tu arrêtes, ça veut dire mon projet est arrivé à perfection.
Pas contradictoire avec la dilatation, parce que les astres, ils sont en mouvement sans arrêt.
Il faut trouver l'équilibre.
L'équilibre va du limite du mouvement. Donc, à la limite, qu'on dise qu'il y a un phénomène dynamique d'extension, ça n'empêche pas que la création, elle est aboutie. Sinon, il faudrait que le soleil soit à sa place, que la terre soit à sa place, mais la création, elle est dynamique.
Non, qu'elle soit dynamique, ça c'est une chose. Tu vois, par exemple, il peut y avoir une dilatation. Dans la physique, dans les modèles cosmogoniques, dans les modèles cosmogoniques, par exemple, de Ptolémée, etc., le monde est stable, dans une stabilité. Maintenant, au XXe siècle, début XXe siècle, il y a eu des dimensions, il y a des réflexions, il y a des équilibres qui créent un chaos, qui créent, etc. Maintenant, Maintenant, dire qu'il y a une expansion, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Ça va toujours, ça c'est ce que le Midrash dit. C'était dans une expansion. À un moment, Dieu a dit stop. Voilà. Stop, ça veut dire qu'il y a des lois. Le fait qu'il y ait des lois dans le monde, le fait qu'il y ait des lois montre qu'il y a une pensée, qu'il y a un aboutissement. Le monde est l'aboutissement. Que le monde est dai les locuto, ça veut dire il a dit le olamo dai, c'est à dire que si ça continuait, loya davar shirlo lotam, il y aurait pas quelque chose qui engloberait, parce qu'il y aurait une dimension infinie. Aval Hashem il mar kolel anim kulam. Mais Dieu englobe tout. Ça, c'est ce qu'on dit chez Amar Dai Leolakuto. C'est-à-dire que, il, quelque part, toute la réalité est l'expression de la pensée de Dieu. Alors, maintenant, le deuxième avis. Les dates, Rabbi et Lazare.
Oui. Sur ce qu'on disait, d'un coup, ça me fait réfléchir. Parce que, de ce que j'avais cru comprendre, en fait, c'est pas l'univers qui s'étend dans l'idée de l'expansion, c'est l'espace entre les corps qui grandit. Ça veut dire, en gros, les galaxies entre elles s'éloignent, mais presque par un mouvement de dilatation de l'espace-temps. Je ne sais pas si c'est des mots justes. Ce n'est pas comme s'il y avait une limite et que cette limite grandit, c'est qu'à l'intérieur de cette limite, par l'intérieur, les choses se poussent. Donc, c'est comme si il existait un Makom qui lui-même est peut-être... s'il est fini ou infini, et que c'est à l'intérieur qu'il existe un mouvement qui continue.
Comme on gonfle un ballon.
Oui, exactement.
Fait toujours le...
Exactement. Tu as quand même le ballon, périphérie. Et à l'intérieur, tu as un mouvement qui se crée à l'intérieur. Je sais pas si ça peut. Oui. Ça veut dire qu'on remet pas en question les lois ni les règles. Simplement, il y a une dynamique qui vit à l'intérieur de la chose.
Une cinétique.
Parce qu'en fait, si. Mais...
Oui.
Je peux intervenir, même si oui, je suis sur l'ordinateur. en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est surtout le concept de définition. Il y a, dans une définition, si on ne met pas de limite à une définition, bah, ça donne tout et n'importe quoi. C'est la Terre, les astres, ils sont définis dans. Ils doivent répondre à des lois physiques, à des lois chimiques, mais ces lois-là, elles ont une limite dans un sens du fait qu'elles sont définies. Mais. Le mouvement ensuite qui est à l'intérieur de ces échanges-là, oui, ça. Mais après, quand on parle de monde englobé, de monde fini, c'est défini. C'est, moi, je vois ça comme ça, comme une définition, des définitions, et notamment dans définition, il y a finition, il y a, je sais pas ça, il y a ce concept de
il y a une fin, carré. Ça veut dire une fin.
Une fin, oui, tout à fait.
Alors, Isabelle Langlois nous dit, les galaxies s'éloignent. Mais s'éloignent vers où ?
Bon, alors je vais parler. Donc, je viens de redemander. Donc, mon mari est physicien, astrophysicien. En fait, c'est sa spécialité.
Ah, voilà.
Donc, voilà. Mais donc, je lui ai redemandé. Donc, effectivement, les galaxies s'éloignent. Et je lui ai demandé, mais le monde, est-ce qu'il est vu comme fini ou infini ? Il m'a dit, on ne sait pas. Donc, pour les physiciens, on ne sait pas si le monde est fini ou infini. Si un jour vous voulez qu'il intervienne pendant 5-10 minutes et vous explique, c'est possible aussi. Je peux lui demander un lundi, si ça vous intéresse, d'avoir
avec les plaisir, théories récentes. Évidemment.
Hein, voilà, mais bon, là, je ne peux pas lui demander parce que...
Très bien, c'est parfait. Ok, on va
Va peut-être...
on va méditer là-dessus. Et on...
Très bien. Sinon, sur l'infini, ce que je dis... quand même, on a des infinis plus grands que d'autres, ça c'est important, puisque R est non dénombrable et N est dénombrable. N est infini, l'ensemble des entités naturelles est infini, mais l'ensemble des réels est infini, mais l'ensemble des réels est beaucoup plus grand que l'ensemble des nombres entiers, parce que R est non dénombrable. Enfin bon, après, je ne sais pas si c'est le lieu de faire...
Il
y a plusieurs puissances d'infini, en fait. Ça a été trouvé, je crois, je ne sais plus, vers le milieu du XXe siècle. Il y a plusieurs puissances d'infini. Et R a une puissance d'infini supérieure à N. Donc, ce n'est pas... comment dire ? L'infini, pour être plus grand qu'autre chose, ce n'est pas forcément seulement plus grand que le fini. On peut avoir des infinis plus grands que d'autres infinis.
D'accord. Oui, Emmanuel, qu'est-ce que tu veux dire ?
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour nous, l'infini... J'imagine pas ce que ça, bien ce que ça signifie, mais on est capable quand même de dire qu'il y a un infini bien plus grand qu'un autre.
Ça, c'est bizarre. C'est ça.
Ouais. Non, mais c'est quoi ? C'est de la rhétorique ?
Non. Alors, je redis ce qu'a dit Madame Langlois, c'est-à-dire l'ensemble des nombres entiers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il va jusqu'à l'infini. Ouais. Mais l'ensemble des nombres... 1,000133333, 1,0033334, etc. Il est aussi infini, mais il est beaucoup plus infini que le précédent.
Parce qu'on a plus au centre de...
R.
Ah oui. Non, mais je vais même. C'est pas juste qu'il y en a plus. Il y en a une infinité entre 1 et 2.
Déjà.
Entre 1 et 2. Ah, il y en a déjà une infinité.
Ah, je sais.
Enfin, les maths, j'ai un peu oublié, mais c'est ça l'idée.
Ça rappelle quelque chose.
Donc, c'est beaucoup plus infini que l'autre qui lui-même est déjà infini.
C'est comme quand on va d'un point A à un point B et on parcourt chaque fois la moitié de la distance. Et si on fait ça, on n'arrive jamais à aller jusqu'au bout.
Paradoxe.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'infini.
C'est l'âne de Buridan.
Non, mais.
Comme un gâteau, par exemple.
Non, c'est pas l'âne de Buridan. C'est le Zénon.
Paradoxe de Zénon.
Paradoxe de Zénon.
Mais là, bon, ce que dit le Maharal, en
gros. Voilà, c'est voilà, tu as le paradoxe de Zénon, mais naturel.
Voilà. Non, moi, ça, je le comprends. Et l'infini, c'est l'infini entre les points que je vois.
Moi, je l'appelle au gâteau différent. Le gâteau, tu manges de la
fleur,
et tu peux pas. Non. Il n'y a pas de comparaison. Entre 1 milliard et l'infini, entre 0 et l'infini, c'est infini. La différence, elle est infinie.
En gros, là, ce que veut dire le Maharal, enfin. Du Midrash, c'est que si on concevait que le monde soit infini, alors ouais, il échapperait à son créateur. À un moment, le créateur a dit die. Mais quand on dit, effectivement, enfin, quand le créateur dit die, peut-être que c'est du point de vue de l'échelle du créateur, il a dit die, mais que le monde puisse être en expansion quand même.
On va prendre une parabole extrêmement simple. On dit que Shabbat est l'expression de la perfection. Disons qu'il n'y a pas Shabbat. Disons qu'il n'y a pas Shabbat. On a l'expérience, on peut avoir l'expérience, que l'homme qui a besoin de vivre ou de survivre, ça dépend comment on vit la chose, a toujours besoin d'agir. Toujours besoin d'agir. Donc finalement, si on dit que l'homme a toujours besoin d'agir, ça veut dire que son action le dépasse. Que quelque part, il est soumis à son action. Parce que l'action est infinie, elle ne s'arrête pas. Le fait que je m'arrête, ça veut dire que moi, c'est moi qui domine l'action, et ce n'est pas l'action qui me domine. C'est la même chose en vérité. Le fait que Dieu, à un moment, dit stop, ça veut dire que lui est au-dessus de son action. Si on dit que l'action continuait tout le temps, ça veut dire que l'action domine celui qui l'engendre. On le vit.
C'est possible de dire ça quand on fait quelque chose Yesh Me'ayin. Quand on fait quelque chose de Yesh Me'ayin, ce n'est pas possible qu'il nous dépasse. On peut être dépassé par Dieu. Moi, je suis créé de quelque chose. Il y a quelque chose qui existe déjà. Alors, je peux peut-être être dépassé par ça, mais je ne pourrais jamais être dépassé par quelque chose que j'ai créé.
Non, il a une idée géniale. Regarde Steve Jobs, il a créé dans son garage, là.
Si je prends la comparaison du Shabbat, moi, je trouve, tu vois
des gens qui ont, justement, parce qu'ils ont créé leur entreprise, ou même leur commerce, ils sont complètement engloutis par ça. Ils arrivent parce que c'est leur bébé. Justement.
Tu parles de quoi alors comme
ça, création ça, stylo ça, ils peuvent être engloutis.
Prenons la petite théologie du lundi soir. Théologie des familles. Disons que Dieu soit infini. Si Dieu est infini, pourquoi sa création ne serait-elle pas?
C'est justement une question.
Et là, il y a le débat entre M. Antoine Lévy, Antoine Israël Lévy, et moi-même.
Pourquoi vous avez des débats en parallèle?
Comment? Non, pas en parallèle. On est là. C'est que Spinoza, Baruch lui-même, il y a Baruch Aman. Aurait-il dit que la nature, c'est Dieu? Voilà. Et beaucoup ont dit, quelque part, que ce qu'il disait, c'était pas faux, mais c'est pas au niveau du pshat, c'est au niveau de la Kabbalah.
On dit que Elohim, c'est la gematria de Ateva.
Voilà. Alors,
la nature. Que ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est pas au niveau du pshat, au niveau de la réalité simple. C'est un niveau spéculatif. C'est pour ça que la Kabbalah, il ne faut pas trop... Oui, mes chaises, elles elles ne sont pas infinies. Quoi. Elles sont... Non, mais tu peux remettre. Hein, remettre.
Je comprends aussi la nature, justement, elle fait d'ail aussi sur nous. Elle nous englobe.
Alors, oui. Alors, regarde, moi, ce que j'ai voulu dire et ce que je défends, oui, c'est que dans notre tradition, il y a un refus de l'immanence. On y est. Ça veut dire que un refus de dire que tout, c'est de la divinité. Tout, c'est pas de l'infini.
On peut dire que tout n'est pas l'infini. Ça vient de l'infini.
Ah!
Il attaque sec. Hein?
Ah, voilà, voilà. Hein? Alors, il y a un... C'est des choses très subtiles. Des choses très, très subtiles. Il y a une Gemara que cite le Maharal dans Netivot Olam. Je vais vous citer, je vais chercher la référence. Excusez-moi une seconde, je vais chercher. C'est dans mon bureau là-haut, deuxième.
Est-ce que Hachem peut être infini ou est-ce qu'il n'est pas dans le creux?
Enfin, c'est vrai que Hachem peut être autonome. Non, mais Hachem peut être autonome par rapport à ses créatures.
Comment est-ce que Dieu puisse laisser dépasser par ses créatures? Lui-même,
il a infini. Il
a créé tout Yashmaï. Donc, c'est ta comparaison avec les entreprises et les startups, ça n'a rien à voir. Parce qu'une startup, par définition, tu assembles par exemple plusieurs technologies, plusieurs choses et tu crées un nouveau matériau ou quelque chose.
C'était une comparaison.
C'est donc pas du tout comparable.
Parce que par exemple, un peu plus. L'arbre. Parce que quand on dit, on voit par exemple une vision, une approche visionnaire dans l'art.
Oui, mais
une anticipation sur un arrangement, ça peut faire. Ça, on peut être considéré quand même.
Effectivement, c'est non, il y a des éléments existants.
Mais c'est quand même pas limité.
Non,
c'est pas une arrivée.
On va dire que
l'espace peut
dilater. Ça rentre dans ce que tu dis quand même.
Alors.
Non, parce que.
On l'a donné à moi, la vie.
Oui,
je la donne. On l'a donné.
Mais ça vient de créer. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas la créer artificiellement. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui manque dans le cadre uniquement de l'arrangement.
Mais tu veux, à part ça, tu veux rien créer si tu n'as pas de matériel. Par exemple, tu ne peux pas créer une pièce si tu n'as pas de bois.
Ok. Alors. Mais de toute façon, tu imagines bien que quand on te dit que.
La voisine.
Même le haïn. En fait, le rien, ce n'est pas forcément ce qu'on pense. Puisque ça voudrait dire qu'il existe autre chose que Dieu s'il existait de rien.
Alors, regardez, il y a le Maharal dans Netivot Olam, dans Netiv Irat Hashem, troisième chapitre, cite une Gemara dans le traité Nedarim. Le Maharal dans le troisième chapitre de Netiv Irat Hashem cite une Gemara dans le traité Nedarim d'Avzain Amoudbet.
Regardez, je vais vous passer une Gemara parce que c'est vraiment. Ça a l'air de rien, comme ça.
C'est pas moi.
La question, c'est à quel moment on n'y vit pas.
Parce que le moment de la caractéristique que je cherche.
Mais ça, c'est une fois qu'il est là.
Raïn Amoudbet.
On le met. J'ai une caractéristique. Normalement, il est peuplé. Ça, c'est ça. Si on peut le passer par ça ou pas.
Ah, bah, non. Pas sûr.
Pas possible.
Tu peux le baisser.
C'est pas possible. C'est pas possible de se faire des passes.
Non, mais ça revient à ce que tu dis.
Si tu peux faire la
création est infinie. Alors, c'est possible.
Ah, mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre.
Zahin Amoubet, en bouteille.
C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est juste sur ça que je donne. Mais quand bien même, ça serait infini.
C'est au milieu de la page. Zahin Amoubet, en traité Nedarim. Zahin, c'est au début. Amar Rav Hanin, Amar Rav, au milieu de la page de Zayn Amoubet.
Amarav Khanin, Amarav. Khavranin de nom de Rav. Ashomea Askarat Hashem et Pichavero. Sarir Lenadoto. Celui qui entend le fait de mentionner le nom de Dieu de la bouche d'autrui, il faut le mettre en anathème. Il faut mettre en anathème celui qui a prononcé le nom de Dieu. Vimlo nidou ou atzmo yebenidou. Et s'il ne met pas en anathème celui qui a prononcé le nom de Dieu, que lui-même soit en anathème.
C'est quoi un anathème ?
Alors, le nidouille, ça veut dire que c'est une procédure que si quelqu'un fait une faute, tu le bannis. Voilà. Et tu mets au banc de la communauté pendant 30 jours. Donc, quelqu'un, on parle dans une communauté structurée où tout le monde fait Torah mitzvot, quelqu'un fait une faute, pas une faute qui est punissable par le tribunal, mais là, par exemple, quelqu'un, il mentionne le nom de Dieu, alors regardons, qu'est-ce que ça veut dire le Ran explique. Ça veut dire, il dit le nom, il prononce le nom de Dieu comme ça facilement, tu vois. Nous, par exemple, on dit Hachem.
Oui.
Ouais.
Mais le vrai.
Au lieu de dire Hachem, il dit Yotke Vavke, tu vois, comme le brave Victor Hugo.
Mais donc, c'est dans un cas, il n'y a pas des dîmes, on ne pourrait pas, même s'il y a des témoins,
mais ce n'est pas passible. C'est pas passible de faute du tribunal.
Parce qu'il n'est pas juré,
c'est ça ? Regarde, le RAN. Donc, sur ma série des Darim, on fait le RAN. Hachomé Askarat Hashem, Mipi Chavero, Tsari Lenadoto, Berish Temura, au début de traité de Mora, Mafkinian Azera, Laskirat Shem Shamaim Lebatala. On apprend un interdit de mentionner le nom de Dieu pour rien. Medirtiv et Hashem Elokeratira. Le verset qui dit l'Éternel, ton Dieu, tu craindras. Ça veut dire, on peut se poser la question. On dit quelqu'un qui fait une bénédiction pour rien. Par exemple, il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam Shakon Yevidvaro. Que Dieu, tout existe par la parole de Dieu. C'est bien, c'est vrai. En quoi c'est un problème ? Ça s'appelle Bracha Lebatala, une bénédiction pour rien. Quelqu'un, par exemple, fait une bénédiction pour rien, il faut le mettre en idou. Au banc, c'est une faute grave. Ce n'est pas passible du tribunal des hommes, mais toi, tu dois le bannir.
Est-ce qu'il ne mange pas tout de suite le gâteau ?
Non, il ne mange pas le gâteau. Il dit, voilà, il fait un discours et il dit le nom de Dieu, par exemple, dans le discours. Là, tu es là, et si tu ne le mets pas en idou, c'est toi qui es en idou. Pourquoi ? Pourquoi ? Chez Kolmakom, chez Askarat Hashem Metsuya, Sham Aniot Metsuya. Car à tout endroit où la mention du nom de Dieu est fréquent, la pauvreté est fréquente. Alors, le Maharal va développer ça. Il dit, qu'est-ce que ça a à voir avec la pauvreté ? C'est un passage très bizarre. Alors, il explique comme ça.
C'est quel mot pour pauvreté là, qui est utilisé ?
Aniout. Aniout.
C'est marrant, dans une petite là.
Et la Gemara dit, oui, Vaniout Kamita. Et l'aniout, c'est comme la mort. Alors, le Maharal explique. Zéchamar aniout kemomita. Klomar. Chegam Adam atzmo amaskir shemo le batala. L'homme qui mentionne le nom de Dieu pour rien. En raouilo metziout imachem ilbarar. Ne lui revient pas l'existence qui vient de Dieu. Le karm kabel aider yamita. C'est pour ça La conséquence, c'est la mort ou la pauvreté. Chez Raoui, chez Loïenimsa, Shum Davar, Im Hashem Ilbarar. Aniyut Nirshav Kemomita. La pauvreté, c'est comme la mort. Le car, Miche Maskir Shem Shamay Le Batala, celui qui mentionne le nom de Dieu pour rien. Raoui Elavamita. Kilonimsa Davar, Im Hashem Ilbarar. Car la chose n'est pas légitime d'être avec Dieu. Machaniut ou kemu mita gamken ze inyan muflag meod bechorma. Ce que la pauvreté, c'est comme la mort, est quelque chose d'incroyable dans la connaissance. Car chayim shadam mekabel nirshav kemu bracha. La vie que l'homme reçoit de Dieu, c'est une bénédiction. Sharei ne'emar, comme dit le verset dans Tehilim, ki imcha makor hachaim. Car avec toi, la source de la vie. Shashem ilbara umakor hachaim, car l'Éternel est la source du vivant. Meito mashpia hachaim et kol chay. De lui est prodiguée la vie à tout vivant. Nimtsa, ki hachayut em ashpa'a, que la vie, et comment tu as traduit chayim, ashpa, est prodiguée par Dieu. Kemo Aosher va parnasa, Shem Ashpa min Hashem Itbara. C'est un flux qui vient de Dieu. Qu'est-ce que j'entends de là? Qu'est-ce que j'entends de là? Que lorsque toi tu mentionnes le nom de Dieu, ça veut dire que tu es au niveau de dire le nom de Dieu. Je peux dire le nom de Dieu.
Ah, donc tu ne peux plus recevoir.
Je ne peux plus recevoir. Il y a une distance.
Donc, pour recevoir, il ne faut pas se mettre au même niveau. Voilà.
Donc la création. Voilà.
Non. Si tu prononces le nom de Dieu comme si c'était familier, d'une certaine manière, tu te places au même niveau, donc tu ne peux plus recevoir
de Dieu. Mais le nom de Dieu, c'est qu'une facette de Dieu. C'est pas tout. Il n'englobe pas du tout Dieu.
Oui, la question, oui, dans la Gemara, quand on dit le nom, c'est quoi? C'est le Shema Mefarash, c'est quoi?
Non,
juste Yudkevavke.
Non, le Yudkevavke. Juste.
Non, non, pourquoi je dis ça? Non, parce que chez nous autres Sfaradim, dans les Zmirot de Shabbat, ou dans les Zmirot en général, tu sais, à la marocaine, là, on prononce facilement le nom.
D'accord, hein, c'est vrai. On prononce, c'est une chose. Maintenant, est-ce que c'est bien, c'est autre chose? Le Ran, et le Maharal le développe. Que mentionner le nom de Dieu, faire attention de ne pas mentionner le nom de Dieu facilement, vient de la mitzvah qui te dit. Et Hachem Elokeratira. L'Éternel, ton Dieu, tu craindras. Ça veut dire une distance entre nous et Dieu. Le fait de mentionner le nom de Dieu, c'est comme de la même manière. On nous dit que on ne doit pas mentionner le nom, le prénom de ses parents. Si son papa il s'appelle Polo, tu ne dis pas Polo. Salut, comment tu vas, Polo?
Mais en parlant à quelqu'un d'autre.
Mais en parlant à quelqu'un d'autre.
C'est ça le rythme. Si ton meilleur copain s'appelle Polo, il faut trouver un autre surnom.
Je te donne un exemple. Mon père, ouais, son prénom c'est Léon. Et il s'est trouvé que notre fille aînée épousait quelqu'un. C'est un seringard, mais il s'appelle Léon.
J'y étais au mal à la pas. J'y étais.
Je l'appelle Léon Benjamin. En hébreu, il s'appelle Benjamin. Ouais. Il s'appelle Yehuda. Léon, c'est Yehuda. Souvent, Yehuda, c'est Léon, c'est Lion. Yehuda, c'est le Lion. Hein. Et donc, pour chez les feuilles, il y a beaucoup de Léons. Ouais. Ou est chez les séfarades et chez les ashkenazes. Mais c'est souvent c'est Yehuda. Et en tout cas, mon Jean, je l'appelle Léon Benjamin. J'appelle pas Léon Christ, simplement.
Ah, mais Léon Benjamin, c'est d'accord, c'est pas son appellation d'origine.
Ma fille s'appelle Léon.
Ah,
elle appelle son mari Léon. Elle appelle
pas Léon. Moi, j'ai toujours entendu parler de lui comme Léon Benjamin.
Donc, son épouse, en l'occurrence ma fille, s'appelle Léon.
Et pourquoi il faut une distance avec ses parents?
Alors, parce que c'est la même chose. On dit Ish. Imo va vivre terreau. Il y a aussi une histoire de crainte de ses parents. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas prononcer le nom de mon origine. Je viens de ses parents. Mes parents, c'est mon origine. Je ne suis pas le copain.
Les grands-parents, là.
Comment?
Les grands-parents de grande assurance.
Non, ça veut dire il n'y a pas cette année, il n'y a pas Roland Garros, mais il y a l'étude du lundi soir, par contre. Je ne sais pas répondre. Oui, pourquoi? Parce que c'est une bracha. Alors, justement, c'est ça le sujet. Quand tu reçois concrètement de Dieu, tu exprimes la bracha. Mais une bracha chez Natsriha, ça c'est pour rien. Là, tu exprimes que tu reçois de Dieu. Bracha, tu reçois de Dieu. Alors là, c'est légitime.
C'est pour ça que vous n'acceptez pas l'immanence. Parce que pour vraiment se séparer de.
En fait, c'est le sujet. C'est le sujet.
Mais
regardez ce qui est magnifique. Ce qui est magnifique, c'est que. Moi, quand j'ai étudié ça, dans l'Étivotolam, je suis tombé par terre. Parce que tu vois cette Gemara, celui qui dit mentionne le nom de Dieu, il y a la pauvreté. Ouais, bon, tu vois pas le problème. Mais en vérité, c'est des problèmes, cosmiques qui sont en jeu ici.
Mais ils n'ont pas.
Que dire que je dis facilement le nom de Dieu, ça veut dire que je suis à la dimension de Dieu si je le dis. Il y a une égalité. Donc, c'est la pauvreté. Parce qu'on reçoit de Dieu. Donc, pour recevoir, il faut une distance. Et n'âge pas à. Et pas une égalité.
Mais pour recevoir, il faut être pauvre.
Non, il faut. Si, oui, on avait vu ça. Il faut se sentir pauvre.
Il faut se sentir pauvre. Recevoir, il ne faut pas être mêlé.
Et c'est pour ça qu'on dit que l'étude de la Torah, il faut être un âme. Parce que si on est plein, on ne peut pas recevoir quelque chose.
Ouais, sinon, il n'y aura pas de séparation.
Excuse-moi, je rebondis sur ce que dit Manu. J'ai vu une explication.
C'est un thème qu'on a déjà vu en plus.
J'ai vu une explication.
C'est-à-dire, quand on est plein, on ne peut plus recevoir.
Bah, exactement.
C'est toi qui avais donné d'ailleurs le. Hier, Sérène, on est d'accord à l'appel d'air. C'est-à-dire.
Dans la prière,
le vide s'accroche et qui reste vide.
Voilà, attends. Toi,
ah putain, le déconfinement.
Manu.
Moi, j'ai passé 3 mois à réviser les parallélogrammes avec mes filles, mais lui.
Attends, Manu, je reprends ce que tu dis. Dans la prière le matin, on dit Venafshi kafar la coltillé. Après, on dit. J'ai vu l'explication. Il dit s'il te plaît, fasse que mon âme soit comme de la terre devant tout le monde. Et là, mon cœur pourra s'ouvrir dans la Torah. Si j'ai comme un phare, alors. Voilà, il faut une dimension de vie. Alors, tu peux me redire ça, Antoine? J'ai pas entendu.
Que dans le nom de David, en fait, j'avais vu qu'il y avait une opposition entre David et Gog, parce que David, c'était Dalet, Vav, Dalet. Ça voulait dire la pauvreté, enfin le vide qui s'accroche au divin par le Vav et qui revient vide de toujours de son ego. C'est pour ça qu'il a pu être rempli par Hachem, contrairement à Gog, qui par ego va vouloir s'accrocher et va rester plein. Parce que c'est Guimel qui représente la gâchimie de la matérialité. Et donc, David, c'était la malchoute par excellence, puisque dans l'idée de malchoute, il y avait justement ça, la capacité du vide pour recevoir.
Ah, d'accord.
Et Gog, c'est... Je crois que c'était dans un livre de Rav Kibatas. Ouais.
Pas mal. OK. En tout cas, ici, c'est un point, cette Gemara de Zayin Amoud Bet, me semble-t-il, elle est absolument centrale. C'est-à-dire que le vivant, c'est une hashpa qui vient d'Hachem. Comme dit le verset, « Ki imcha mekochaim » car avec toi est la source du vivant. Or, si, quelque part, je peux dire le nom de Dieu facilement, ça veut dire que je suis avec Dieu. Ça veut dire que je sois. Donc, c'est la dimension de pauvreté. Parce que la vie, la parnassa, c'est une hashpa.
On peut dialoguer sans être à un niveau d'égalité.
Ah, alors regarde. Ça, c'est le début du texte. Ça va arriver. On va y arriver. On va y arriver doucement. Parce que, dans le Maharal, il y a une pensée paradoxale. Elle va arriver. On continue si vous le voulez bien.
Dans le Gvurot Hashem.
Oui. Le Dat Rabbi Elazar, d'après l'opinion de Rabbi Elazar, Nikra Shaddai. Nikra Shaddai, Shen Anim Sai, Kedai Lelakuto. Parce que dans les êtres vivants, il n'y a pas suffisant de sa divinité. J'avoue, je ne comprends pas. Le fika nikra shadai, chez kolkar daibo, chez ananim saim kedai le lakuto, que les êtres existants ne sont pas suffisants de sa divinité, mipne chez avot kololim atol dot, chez yatsu mem gamken, aya shem shadai ima avot. J'ai l'impression, Shaddai, que les êtres existants ne sont pas suffisants de sa divinité. C'est-à-dire, il y a c'est une autre manière de dire qu'il y a une distance entre le monde et Dieu, en cela que le fait qu'il y a le monde n'est pas suffisant à sa divinité. La première explication, le monde est dominé par la divinité, est inclus dans la divinité, mais le monde n'inclut pas la divinité. Le monde est inclus dans la divinité, et l'autre, c'est que le monde n'inclut pas la divinité. En réalité, c'est deux aspects de la même chose. Le premier, dire que le monde, est inclus dans la divinité. Et le deuxième, c'est que le monde n'inclut pas la divinité. C'est-à-dire qu'il explique « Shavot kolelim atoldot chez Yosumem » Les patriarches englobent les descendances qui viendront d'eux. Ça, c'est la première explication. Ou le deuxième qui dit Shem Shaddai, Shenaolam Oblo Dail et Lakuto, c'est-à-dire Shem Enaolam Oblo Dail et Lakuto, c'est-à-dire que le monde n'inclut pas la divinité. D'ailleurs, nous, que le monde qui est causé n'est pas égal à sa cause. Qu'il est Olam Aloul Chaser Mina Ila. Car toujours, la cause, le causé, est déficient par rapport à la cause. Ça, c'est la deuxième explication. Première explication, que l'Olam, le monde, la divinité inclut le monde. Mais la deuxième explication, que le monde n'inclut pas la divinité. La divinité inclut le monde, mais le monde n'inclut pas la divinité. Donc, c'est vraiment le pourquoi. C'est cette dimension de distance. Il dit parce que ce qui est causé est déficient par rapport à sa cause. Et Ren Abanim, Enam Kedai Lavot, les fils ne sont pas au niveau des pères, en cela que les pères sont la cause des fils. Alors là, regardez, il va y avoir un coup de théâtre.
À défaut d'être au niveau, l'action, elle est uniquement en écho. On peut faire un tico, on peut faire une réparation sur. C'est ça le...
Ok, regarde. Essayons déjà de comprendre qu'est-ce qu'il dit. Maintenant, il va y avoir un coup de théâtre. Mais Yudke Vavke, mais Shemi Hashem lo nodatilem. Le nom Yudke Vavke, je ne l'aurais pas fait connaître. Hashem Amyuchad Nikle le Moshe. Mais le nom spécifique a été révélé à Moshe. Bema, Shem Amyuchad More Alarduto Idbarar. Le nom Yudke Vavke est le nom spécifique. Shunivdal Mikol Anipsaim. Séparé de tout être existant. C'est un nom kadosh. Moshe, malato aya be'achdut. Or, le niveau de Moshe et sa spécificité, shelokam navi kamo, ne s'est jamais levé un prophète à son niveau. Ve'u aya nivdal mikol adam asher al pena adama. Il est séparé de tout homme qui est sur la face de la terre. C'est ça. Shemi Hashem lo nodati lahem.
C'est un Moshe, l'homme séparé des autres, a eu le mérite de percevoir cette dimension séparée de Dieu. C'est ça.
Voilà. Donc là, il y a quelque part, le, en vérité,
pourquoi il y a un coup de
théâtre ? Si on creuse ce sujet, par exemple, si on dit que Dieu est séparé de sa création, Kadosh, alors le Maral ici nous fait un coup de théâtre que quelque part, Moshe Rabbeinu est à les dimensions de hardout, d'unité, de qui ressemble à quelque part à Dieu. Comment ?
C'est une menace.
Dès qu'on a un peu de. Je ne sais pas si c'est une. Disons, allons, si tu veux, allons un petit peu doucement dans cette histoire. Ça veut dire. D'ailleurs, on l'a vu un peu avec Jacob aussi.
Oui, ouais, puisque, Shlach, là-bas.
Oui, dans Parashat Vayishlach, et aussi dans Parashat Zot Abracha, on dit En Kael Yeshuvud Rochev Shamaim Bezrecha. Il y a un verset dans Zot Abracha. En Kael Yeshuvud. Il n'y a pas comme Dieu, Yeshuvud, c'est Jacob. Le Midrash dit En Kael, il n'y a pas comme Dieu, sauf Yeshuvud, sauf Jacob.
Mais Maïnaf Kamina pour nous, tout ça. Non, franchement, ça fait plusieurs séances là. Qu'est-ce que ça nous change? Parce que on veut faire résonner dans notre. Donc, bon, il y a un aspect, voilà, de dire. C'est la Gemara Nedarim qui nous apprend qu'on ne peut pas voir la divinité partout. Mais là, le fait que Moshe, lui, il ait eu le nom Yudke Vavke, alors que les Avot, c'était El Shakari. Qu'est-ce que ça. Enfin, je ne saisis pas bien. Qu'est-ce qu'on veut avec ça?
C'est
quand même un sujet qui.
C'est okay. Le sujet, cher monsieur. Tu as raison.
Qu'est-ce qu'on veut avec ça?
Peut-être qu'il était à même de l'entendre. Mais
nous, on est tellement loin et de Kel Shakai et de Yudke Vavke, c'est à toute manière. Ouais.
C'est sûr.
C'est excuse-moi.
Regarde, au niveau simple, moi, je te dis spontanément sans trop réfléchir. On a vu ensemble le début de Vaera. On voit que Hachem, il gronde Moshe en disant « Ouais, qu'est-ce que tu as dit, Lama Araïta, Lama Zé ? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple-ci ? » Ok. On a vu le Maharal qui nous dit que « Ah, les patriarches, qu'est-ce que j'étais content avec eux, je leur ai promis, toute leur vie c'était difficulté, jusqu'à leur mort ça a été des difficultés, ils ont jamais, ils sont jamais grogné. » Et toi, ouais, machin, il compte tout le temps. Ouais. Alors, d'un côté, c'est, on dirait, que Moïse, un niveau moindre que les patriarches. Et d'ailleurs, c'est vrai, il le dit dans ce Midrash, que Shaddai, le monde, est l'expression du perfection. C'est-à-dire, le monde est l'expression de la volonté de Dieu. C'est ce qu'on dit d'ailleurs, que le monde, il y a eu 25 générations depuis la création jusqu'au don de la Torah au Sinaï, ce sont les 25 kilolam chasdo du Halel Agadol, hein, kilolam chasdo, kilolam chasdo, kilolam chasdo, 25, ça représente les 25 générations de Chesed. Et ça, c'est ce que le Midrash dit du Maharal, que ce monde était l'expression de la perfection de Dieu et de la volonté précise de Dieu, de la Shlemut, c'est Dai, Shaddai. On dirait que Moshe, c'est un petit voyou, quelque part, par rapport au patriarche. Mais ce petit voyou, quelque part, va changer complètement la donne. En cela, c'est qu'il va devenir un interlocuteur de Dieu. Nous, on étudie là le matin par Shachar Lecha. Franchement, nous, on est des libres penseurs. Mais on est choqué, quoi. Tu vois, ouais. Tu vois que Moïse, il dit à Dieu, t'as rien compris, laisse tomber. Ouais. C'est invraisemblable. Et ça veut dire quoi? Que Moïse fait que la création n'est plus parfaite. Il intervient dans la création. On n'est plus dans un monde parfait. On est dans un monde où la création s'assume comme différente de Dieu et peut-être déficient par rapport à Dieu. Mais par cela, devient un véritable interlocuteur à Dieu. Donc, le défaut de Moïse, ben, c'est, ça, c'est le projet en vérité. Parce que on dit Moshe péché gamoubassa, nous on a déjà vu ça, hein. il est parce qu'il est cher. Moshe il est un homme écoladam, c'est un type simple, il se la joue pas, mais pas parce que il se la joue pas, il bouleverse tout, et tellement que quelque part il devient au niveau de Dieu.
Je me suis montré, ça veut dire qu'il peut être indécidé maintenant de se montrer sous une autre forme, Dieu. Et c'est le cas pour ceux qui sont manards comme Moshe. Enfin, je demande pourquoi on ne pourrait pas dire ça, que comme Moshe il est très anard, alors ça ne pose pas de problème que Dieu il se montre différemment, de manière pas béchakaï, c'est-à-dire avec la limite, mais il se montre de manière plus illimitée. C'est juste une facette. Dieu, Paera est là, elle a un machin, mais Kalchakai. Mais s'il veut, il peut faire autre chose que Kalchakai. Il pourrait très bien se montrer sous un angle beaucoup plus illimité. Et c'est peut-être ce qu'il a fait avec Moshe qui est à la hauteur.
Il s'est montré beaucoup. Donc, beaucoup moins limité, oui.
C'est ça.
Il voit la limite.
Mais juste ce que je crois pas, c'est cette dualité. À chaque fois, il est au-dessus.
C'est comme
ça, c'est que quand on est dans la dimension de Shakai. C'est-à-dire, moi, par exemple, qui est obligé de voir que Dieu il est au-dessus de moi, etc. Mais finalement, on ne rentre plus dans ce débat de Kolel, tout ça, de qui c'est qui inclut qui, quand on est au niveau de Moshe, parce qu'on est au-dessus de tout ça. Il n'y a plus besoin de. Il sait déjà qu'il est petit, il n'y a pas besoin de le rabaisser un peu plus. Quoi. On peut lui donner plus d'illimité.
Tu veux dire qu'il y a un vote en beaucoup d'ego?
Ben, on lui en donne. Il n'en a pas.
J'ai du mal à comprendre ce que tu dis.
Moi, je parle du mot Vaera. Il y a écrit oui. Vaera, c'est tout. Donc, c'est la preuve que c'est juste une apparence, il n'y a rien d'autre. Ça veut dire que ça peut être autre chose que Shakai. Bah, Rab et Shakai, maintenant je peux décider de vendre.
Oui, mais si tu veux, au niveau, au niveau historique, on a vu, on est au 30e chapitre du Borot Hashem. Ça fait des années qu'on est là-dessus, merci les copains. Mais ça veut dire Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que le Maharal nous a aidé quand même à voir que même la conception de Moshe, la venue de Moshe, c'est pas que la personnalité de Moshe, c'est dans un plan divin d'un bouleversement dans l'humanité.
Pour nous qui sommes dans le Shakai.
On n'est plus dans quel Shakai. Maintenant, on est Yudke Vavke. À partir de la sortie d'Égypte, après, à partir du don de la Torah, si tu veux, tu vois, par exemple, dans les Igerot Moshe, de Rav Moshe Feinstein, dans le premier tome, des Igerot Moshe, qu'il a publié dans les années 50, il a dit
par jour des enfants, c'est quand on a 11.
Attends, où est-ce qu'on en est là? Ah voilà, c'est bon.
On va attendre nous.
Alors, Igorot Moshe, le quand il a publié Igorot Moshe, dans son introduction, qui n'est pas très longue, il dit voilà, quand il y avait le temple, il y avait le grand Sanhédrin 71 juges, et maintenant, aujourd'hui, il y a moi.
Quoi, il dit ça?
Oui. Il faut que je le vois ce soir même, j'ai envie de le voir.
Ah ouais, il dit, ben non, il y a moi. Non, c'est mes... non. Non, si, je te promets. Non, ça veut dire... Mais ça veut dire... c'est ça, c'est Moshe, tu vois. Il s'appelle Moshe, c'est Moshe. Maïmonide, c'est la même chose, tu vois. Maïmonide, il a dit... Tu vois, l'introduction... Du Mishneh Torah, il dit Dieu a donné la Torah écrite, la Torah orale. La Torah orale s'était compilée dans le Talmud avec tous ses commentaires. Bon, maintenant, personne n'y comprend rien. Laisse tombér. Tu prends mon livre, tu prends le Chumash, mon livre, ça suffit.
Non, c'est vrai. On n'aura pas besoin d'un autre livre comme ça.
Il dit, voilà, tu prends le Chumash et tu prends mon livre, c'est bon. Anam. Ah, tu vois, d'après ce que tu avais dit l'autre jour.
Et alors, Anam. Avec la Anam.
Non, mais c'est justement ça. Voilà, regardez, là.
Petite biographie à scroll, ils te disent le Rav, il était du Manassa.
Laisse ces biographies. Dans la rue, ouais, notre bonne maire de Paris, elle a mis beaucoup des poubelles.
Tri sélectif.
Alors, maintenant. Franchement, je vais vous dire, franchement, je vous remercie parce que on peut rentrer dans le Maharal que par un travail collectif, comme on le fait. Parce que c'est on le traduit et on n'a rien compris. Quand tu as dit, voilà, on n'a rien compris, tu as tout à fait, c'est parfait. Et là, je pense que là, on va avancer. On va avancer grâce à Dieu. Vos remarques font avancer. Ça, c'est une démarche. Une démarche constante et qui va être le bouleversement qui s'amorce avec Moshe. C'est que l'homme, maintenant, grâce à Torah et Mitzvot, prend cette décision. Par exemple, moi j'ai des amis qui m'ont expliqué comment ça, c'est quoi le truc papal, comme on appelle l'infaillibilité papale. Les catholiques, la notion de l'infaillibilité papale, c'est quoi? Ça veut dire que lorsque le pape est investi de, disent-ils, il écrit l'infaillibilité, ils disent que il a l'Esprit Saint. Et que ces décisions sont inspirées. Dans notre tradition, il y a des prophètes, et il y a les juges. Il y a les dayanim. Un dayan doit trancher la loi selon des arguments discursifs, argumentés. S'il dit « Dieu m'a dit que c'est ça la loi », il est condamnable à titre de faux prophète, condamnable à mort. Tu as eu des prophètes qui étaient à la fois des juges rabbiniques, à la fois des prophètes, prenons Jérémie par exemple. Oui. Eh bien, Jérémie, quand il est au tribunal rabbinique, il est juge rabbinique, mais pas prophète. Il laisse sa couronne de prophète à la porte. Il est juge. Ça veut dire, c'est lui en tant qu'homme qui tranche. C'est ce qu'on appelle dans le langage talmudique En la Dayan et la Machen Abrot. Un juge n'a que ce que ses yeux voient. On a des critères. La Torah nous donne, par exemple, critères de majorité, critères de Chazaka, critères de. Il y a plusieurs critères. Selon ces critères qu'on a reçus au Sinaï avec lesquels on juge. Voilà.
Je le vois. C'est surprenant pour un prophète aussi. Il dit ça.
Oui, non, ce qu'il voit, ça veut dire ce qu'il voit.
Oui, non, je vois l'enchaînement, mais j'étais surpris.
Parce que le prophète s'appelle un roé. C'est un raisonnement juridique.
Prenons un exemple. Pour moi, l'exemple, disons, au fil des années, bon, j'ai beaucoup travaillé ça. Je crois que dans le monde commence, il y a un chapitre là-dessus, me semble-t-il. Pour moi, l'exemple le plus fort, c'est le Gemara dans Baba Batra. Passez-moi les Nédarim pour qu'il n'y ait pas trop d'overdose.
Mais pourtant, parfois, on voit à l'époque où il y avait des Nevi'im que. Même Shaoul, pour retrouver ses ânesses, il va demander au Navi.
Ah, d'accord, mais ça, ce n'est pas la loi. Ça, ce n'est pas la loi.
C'est la vie de tous les jours. C'est pas une question de loi avec Moshe quand il parle à Hachem, non?
Comment?
Ça n'a rien à voir avec la loi quand Moshe il parle à Hachem.
Oui. Oui. Ouais, tiens. Mais je pense que. Comment dire, ça va. Tu as raison.
Attends, donc ce soir là, 8 juin, je comprends que quand Moshe se plaint et dit Lama Areota, pourquoi tu as fait empirer la situation,
c'est
le début d'un processus où maintenant l'homme va être acteur. Et quoi, donc avant les Avot, ils étaient comme ça un peu.
Ils étaient le divin était prédominant. Voilà. Justement, il y a la crainte de Dieu. Et là, alors, c'est ça la pensée paradoxale. Ouais. C'est ça la pensée paradoxale.
Mais dans ce cas-là, Adam aussi, quand il a croqué dans le fruit, alors je peux dire, oui, il y a un truc paradoxal. Il a fait une faute, mais c'est par cette faute qu'il devient l'homme qui fait des conneries. Non ?
Gessler développe ça. Il a dit qu'il faisait ça à l'échelle de famille pour. Voilà.
J'ai pas assez de cavode à la chaîne. Juste, j'ai rien à faire, juste à pas manger de fruits, pas assez de cavode à la chaîne. C'est bon.
C'est pour ça que j'ai un pinot.
Je crains.
Oui, bah votre. Alors, une seconde. Si je m'abuse, c'est couche café à mout de bête. Si je ne m'abuse, mais peut-être je me.
Alors, le résumé pour avoir un.
On attend en mail.
Il est trop balèze.
Non. Oui, c'est Kouf Lamed Amoudbet. Alors là, Kouf Lamed Amoudbet. Alors là, pour moi, ça c'est le summum.
Alors.
C'est Kouf Lamed Amoud Bet, cinquième.
Ouais,
c'est pas loin. Oui, t'es pas loin. On y arrive doucement. Alors, 5000 avant la fin de la page. Cinquième ligne avant la fin de la page. Amar Léou, Rava, les Rav Papa, mais les Ravuna, paré des Rav Yoshua. Il leur a dit, Rava, à Rav Papa et Ravuna, le fils de Rav Yoshua. Qui a été Piska d'Edina Didi les Kamaïrou. Donc Rava, c'était le grand maître de sa génération. Donc il a dit à ses deux disciples. Qui a été Piska d'Edina Didi les Kamaïrou. S'y arrive une décision juridique à moi devant vous. Et que vous voyez une réfutation à ma décision juridique. L'otikrou adatmaï. Ne la déchirez pas avant d'être venu me voir. Non, tu vois, déjà je sais que vous avez envie de la foutre à la poubelle. Mais ne la foutez pas tout de suite à la poubelle. Je sais, je vous connais. Je sais que vous voudriez la foutre à la poubelle. Non, attendez avant la foutre à la poubelle. Tu vois, donc attendez avant la foutre à la poubelle. Adati tous les kamaï avant de venir devant moi. Ietli tama amina lechou. Si j'ai une explication, je vous la donne. Vilo adranabi. Sinon, je reviens. Si vous avez une réfutation, peut-être que je n'ai pas pensé, je me trompe, je peux me tromper. Errare ou manum est. Je peux me tromper, donc venez, les amis, venez discuter. Par contre, peut-être que votre question, je peux y répondre. Donc, c'est vrai que je me fais vieux, peut-être que je peux vous expliquer. Mais si votre question est bonne, je reviens.
Évidemment.
Maintenant.
Attends.
Toi, tu ferais pas ça.
C'est chaud.
Toi, tu ferais pas ça.
Admettre son erreur, c'est ça le.
Mais non. T'as une décision de Rav Eliashiv. Tu dis. T'as une décision de Rav Avda Yosef. T'as une décision de Rav Eliashiv, de Rav Steinman, de Gershon Edelstein. Tu dis voilà. Hein, ok. Tu vois.
C'est
ses
élèves, non
enfin, c'est ses
élèves. Donc, c'est peut-être plus simple pour les élèves d'aller voir le grand rav, non?
Ouais, mais d'un autre côté.
Non, mais d'accord, tu vois bien, c'est le Rabbi Lubavitch, il a une décision. Attends, il faut que je sorte les grandes. Il faut mettre les points sur les i. C'est le grand maître de la génération.
C'est chaud.
Le grand maître de la génération dit si j'ai fait une erreur, bon, d'abord on discute. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu. Vous croyez que c'est une réfutation. Peut-être que je savais que c'est une réfutation et j'ai une réponse à ça. Maintenant, la Ramita, après ma mort, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne serai plus là. Parce que si vous voyez une question, peut-être j'aurais su répondre.
C'est un coup dur. Je pose la question au livre.
La Ramita. Et là, je vais vous dire, s'il n'y avait que la phrase qui vient dans le Talmud, jetez le reste. Gardez que ça.
Ouais, ça peut faire le prochain cours du mardi soir.
Mais j'ai fait une phrase.
Ça arrive. Ah, dommage.
J'ai une fois.
Moi, je donnais une idée. Hein.
La Ramita. L'omikra tikreu migma namil yotigmogum. Après ma mort, et que vous voyez une question. Ni vous déchirez la décision. Ou migman aminotigmromé. Et apprendre non plus, vous n'apprenez pas de ma décision. L'omikra takriné, ni déchirez-vous la déchirez. dit Aveyatam Dilma Ave Amina Lechutama. Parce que si Jus était là, Jus peut-être répondu à votre question. Donc peut-être que vous n'avez pas bien compris. Umigmar Nami Lo Tigmerumine. Et apprendre, n'apprenez pas. Vous n'avez pas le droit, si vous avez une question, vous n'avez pas le droit de suivre ma décision. Pourquoi ? En la Dayan et la Magena Brod. Parce qu'un juge n'a que ce qu'il comprend. Si on parle de juge, on ne parle pas du vendeur de pommes de terre. Oui.
Mais Dieu.
Mais c'est la source de ce principe.
Attends une seconde, ne
m'énerve
pas. Donc ça veut dire, ici il dit, regardez, ici on est dans le paradoxe de la halakha. Ça veut dire que moi je suis votre éminent maître. Je suis votre éminent maître. Évidemment, le souffle de mon esprit plane sur les eaux du Danube de la pensée. D'accord.
Le canal Saint-Martin.
Voilà. Le matin, c'est quand il y a de la brume. Maintenant, lui, l'éminent maître. Évidemment, c'est le maître. Il a une génération de plus. Donc, il a plus de bouteilles. Mais bon, irari o manumes. Alors, il dit voilà. Lorsque je ne serai plus là, donc, discuter, c'est difficile. Il n'y a plus de réseau. Il n'y a pas de réseau. C'est difficile de discuter. Et vous voyez une réfutation, une question que vous ne savez pas résoudre. Alors, peut-être que j'ai raison. Peut-être que dans 10 ans, vous comprendrez que j'avais raison. Donc, mets sous le bras. On met en attendant boss, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, vous n'avez pas le droit d'apprendre. Parce que quand vous n'êtes pas d'accord, vous allez suivre ce que vous pensez. Ah, peut-être je me trompe. Mais la Torah, elle était donnée aux hommes. Ce que vous pensez, c'est comme ça qu'il faut trancher. Il est possible que je me trompe. Tu dois assumer que toi tu penses. Regardez le Rashbam, c'est pas Rashi, à partir de Kaftet, Thomas al-Bavatra, c'est son petit-fils. Altigmeru. Bon, il fait tout un développement. Je vais vous le dire en un mot, hein, parce que c'est très très long. C'est très long. Chaque mot dans Rashbam, c'est un univers. Mais en un mot, on apprend un verset qui dit Imcha idvar mishpat, avec toi dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que l'homme doit assumer sa faillibilité dans sa capacité de trancher. Je sais que je suis quelqu'un qui peut me tromper. Je sais que je suis faillible. Je sais que je n'ai pas la vérité absolue. On peut réfuter ce que je vais dire. Mais la Torah m'a été donnée à moi. Je dois trancher la halakha avec les éléments que j'ai. Même si ces éléments, au moment T, il me semble ça, T plus 1, ça peut être faux. Au moment T, pour moi, c'est ça la vérité. Je dois trancher d'après ça. Et ça, c'est la dimension de Moshe. C'est la dimension de Moshe. C'est Moshe, il est just like Oman. Il est comme ça. Et c'est avec ça. Donc, notre passage, finalement, c'est un passage qui va être charnière, que là maintenant va se jouer la sortie d'Égypte et le don de la Torah. C'est une rupture totale avec les patriarches. Les patriarches, eux, ils avaient cette dimension. Dieu est au-dessus d'eux. Salut, boss. Au-dessus d'eux. Salut, boss. C'est la perfection, il a dit. Daï, il y a une perfection. Ce monde est parfait. Exprime complètement la volonté de Dieu. Et Dieu a sa place juste par rapport à sa création. Maintenant, tout ça va être bouleversé. La création, finalement, va exister dans sa, dans sa différence complète avec Dieu et va s'assumer dans sa différence. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Et par le fait que je ne suis pas Dieu, je deviens l'interlocuteur de Dieu.
C'est presque un nouveau fruit. Hein.
C'est complètement nouveau.
C'est presque un nouveau fruit de la connaissance du bien et du mal. Un mélange.
Voilà. Lévinas a bien parlé de ça. Hein. Il a bien parlé. Dans un livre, je crois que ça s'appelle Par-delà le verset, je crois.
Au-delà du verset.
Très bien. Il a très bien parlé en tant que lituanien.
Et dans quelle étude talmudique?
Parce que c'est plusieurs études talmudiques.
Ah, c'est à la fin.
C'est un livre en soi où il explique.
C'est un peu que c'est son monsieur Chouchani.
Non, je dis ouvert ce Shabbat au-delà du verset. Non, mais non, en fait, il y a des études talmudiques et à la fin, il y a une partie. Ah, d'accord, c'est à la fin.
Oui, il parle de Rahim, de Balogin, etc. Au-delà du verset, il explique justement que le talmudiste, quelque part, assume une dimension athée.
Athée,
ça veut dire de distance totale avec le divin.
Là, on est dans le sabbat. C'est pour ça que ça a chauffé entre les lituaniens.
Oui. Je ne veux pas.
Sans polémiser, mais je ne veux pas forcer le trait.
Non, historiquement. Je ne veux pas forcer le trait.
Je n'ai pas compris, en fait, en fond, à la base de la discussion qui a commencé à se créer. Je pense qu'il y a un souci, moi, sur la définition de l'immanence. Parce que moi, quand je m'approchais de ces concepts, c'était plus dans la philosophie. Et Kant, la distinction qu'il fait, c'est que l'immanence, c'est quelque chose qui s'expérimente, et donc il va disposer d'une certaine limite qui est liée à l'être qu'il expérimente, alors que la transcendance, c'est au-delà de l'expérimentation. Et donc, la première fois, c'était je lisais en fait le raccord Novero, donc Thomas Deborah, et je découvrais l'idée que, ce que tu me disais tout à l'heure, que le ver tient parce qu'il est nourri en permanence, ça veut dire qu'Hachem fait tenir le monde parce qu'il le nourrit en permanence. C'est un peu aussi ce qu'on avait vu parce qu'il est patient, il pâtit, et il attend aussi ces notions-là. Et donc, si le monde est nourri en permanence, c'est qu'il existait bien un lien dans chaque chose.
Mais différent. C'est ça ce qu'on voit dans les Darim.
Oui, mais...
C'est ça ce qu'on voit dans les Darim. Si il est nourri en permanence, ça veut dire qu'il y a une différence.
Ah, il y a une différence. Mais si la dimension d'immanence est quelque chose qui s'expérimente et qu'il y a une notion de limite, de fait, l'immanence est en dessous de la transcendance. Puisque la transcendance est quelque chose qui est extérieur et qui est plus grand que... Et Eli Moon, dans le livre de prière, il dit justement dans la bracha, il dit on dit Baruch Ata, parce que le tu est la dimension de l'immanence, et après on passe à la troisième personne du singulier, quand on dit Melech Olam, parce que là on est dans la transcendance. Il dit toute l'idée, c'est le pont entre les deux. Et après, je me disais, la mitzvah, enfin les mitzvot, c'est la même chose. Les mitzvot, c'est un pont entre l'immanence et la transcendance. Le juif, il est toujours pont entre ces deux.
Entre quelque chose qui le dépasse et quelque chose de son expérience. Je comprends.
Mais là, on ne parle que de halakha à chaque fois. On ne parle que de halakha. On n'englobe pas toute la Torah. On englobe la toute petite partie, l'infime partie qui est halakha, le passage au concret. C'est la partie de l'infinité de la Torah.
Oh, c'est pas mal. Aïe, aïe. On dit, Michel Hazard, Hachem, il n'a plus que les 4 pouces d'Allah. Non, ça te reste que c'est oui, non, aujourd'hui.
Oui, mais Moshe, c'est la loi. Moshe, c'est l'Allah. C'est le don de la Torah. Si tu veux, les plus grands maîtres du peuple juif, les plus grands kabbalistes, ont été les plus grands halakhistes. La halakha, c'est le...
Ça va vraiment dans le sens que c'est justement ça, le passage. C'est, on doit commencer au départ, à la halakha.
Non, ce n'est pas le départ, c'est l'arrivée.
Il y a un fameux texte qui dit sur 1000 élèves qui étudient, il y en a 100 qui arriveront à la... C'est quoi, à la Gemara.
À la aura.
Il y en a un sur 1000 qui arrive à trancher la halakha. Trancher la halakha, c'est le niveau de cette somme.
Apparemment, c'est pas si difficile, vu qu'il n'y a que ce qui voit.
Non, c'est ce qu'il arrive à structurer, ce qu'il arrive à définir.
Alors,
Bon, mais regardez, OK, regardez, on voit beaucoup d'aspects, c'est, évidemment, c'est très bien, merci Antoine, tu nous apportes des éléments qui enrichissent notre sujet. Mais il me semble que là, cette Gemara nous explique ce dont le Maral parle, qu'à un moment, il y avait les patriarches, ils vivaient dans la perfection de la volonté de Dieu. Et là, Moïse va assumer cette différence entre l'être créé et le Créateur, en tant que l'être créé, par définition, est déficient, et par ces dimensions de déficience de l'être créé, va devenir un interlocuteur, quelque part, égal à Dieu. Ce n'est pas qu'il va se prendre pour Dieu, mais il va être un interlocuteur égal à Dieu. Quelque part égal à Dieu. Et ça, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement, et je pense que les nations ne supportent pas ça, en cela que nous, quelque part, on est des iconoclastes. Parce que même Dieu, quelque part, on le met à mal.
Il a été convaincu par Moshe, il a été dépassé par Moshe finalement.
Voilà, dépassé par Moshe. Ouais. Moshe lui tient tête, et c'est ce qu'on voit dans Shlarlecha. Ouais. Et ça, les nations ont du mal à supporter qu'on n'est pas dans le divin, on n'est pas dans on n'est pas dans la béatitude, voilà. On n'est pas dans la béatitude du divin, ça c'est insupportable. Insupportable.
Noir était un peu plus.
On est avant Matin de Torah.
Dans un monde d'ail.
Un peu plus.
Un peu plus dans la béatitude.
Oui, oui, évidemment.
C'est intéressant. Parce que c'est aussi
pourquoi il est dans la béatitude
parce justement, on dit qu'il est une des raisons, si j'ai une bêtise, hein, que ma boule est arrivée, c'est parce que.
Il n'a pas tenu tête.
Il n'a pas tenu tête.
Ok, regardez, on a bien décortiqué ce Maharal. Merci, hein, je vous remercie infiniment pour ce travail qui n'est pas facile et votre persévérance donne des fruits. Bon, prochain.